Voilà, bonjour à tous. Alors donc, bienvenue pour cette troisième session. Et j'ai remarqué que pour que les gens soient à l'heure, il faut toujours commencer, en fait. Voilà, donc j'espère que vous allez survivre à cette troisième session. Hein. C'est pas évident d'intervenir le troisième. Alors, me présenter un petit peu, j'étais enseignant dans le public et aussi dans le privé hors contrat, puisqu'étant pasteur, moi-même, on a démarré une école chrétienne hors contrat où j'ai aussi enseigné. Et donc, je suis parmi mes nombreuses cordes, je suis aussi formateur à l'ISP, Institut supérieur protestant Mathurin Cordier, qui se trouve à Guebwiller. Et tous les ans, nous formons des enseignants pour les écoles chrétiennes. Alors, cette école reçoit des gens qui font le cursus entier et puis aussi reçoit aussi des personnes qui souhaitent faire une semaine de cours, par exemple sur la pédagogie Montessori, éventuellement. Et j'ose vous proposer, si vous le souhaitez, si le thème vous intéresse, eh bien, j'y consacre une semaine entière en février, et ça peut vous être financé par un organisme de formation professionnelle. Donc voilà, c'est juste. Et puis s'il faut, on vous donnera les informations pour cela. Mais donc une semaine entière, j'interviens sur le thème de l'identité de l'enseignant chrétien. Ça, c'est Margarita avait été très, très touchée par cette phrase. On l'a mis dans la présentation. Avoir une identité juste est important pour être ces fils et ces filles que nous sommes appelés à être, sachant que les élèves qui nous sont confiés ne sont pas les faire-valoir d'une identité inquiète. Un peuple idéalisé qu'on se met en opposition au monde des adultes ou au monde extérieur, encore moins le défouloir de nos propres frustrations. C'est tout un programme, mais ça cadre un petit peu l'intervention, en fait, et c'est pourquoi il y a cette école-là. Deux versets intéressants, il me semble, pour poser les choses sur deux écritures qui me sont chères. Il y en a d'autres, bien entendu, mais il fallait faire un choix. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, le cri Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et donc, il y a tout un. C'est programmatique, ce Galate 6 et 7. Abba, vous savez, s'il y a vraiment deux mots qui définissent vraiment le Christ quand il parle, il y a deux mots araméens, en tout cas, qui sont sa signature christique. Il y a le mot Amen, vous savez, quand il commence une phrase, Amen, Amen, en vérité, je vous le dis, il parle de toute autorité, ça c'est vraiment qui caractérise le Christ. Et puis Abba qu'on ne trouve dans aucune prière autour de Jésus, historiquement, on ne trouve pas, personne n'aurait osé appeler le Seigneur, le Père Abba. Et donc ces deux mots Amen et donc la vérité et Abba en tant que parole d'affection, de tendresse, c'est quelque chose que l'on trouve donc seulement chez le Christ. Et nous sommes appelés aussi à recevoir l'Esprit du Fils. Et donc il y a l'idée que nous recevons l'Esprit du Fils et que nous sommes donc appelés à hériter et faire enseigner des enfants c'est ce que nous enseignons à l'ISP, dans les écoles chrétiennes, c'est les apprendre à devenir héritiers. Hein, héritiers. Naître de nouveau, donc, c'est recevoir l'esprit du Fils, l'esprit d'adoption qui crie Abba Père en nous. Et cet esprit d'adoption, c'est très intéressant parce qu'on pense souvent, car vous n'avez pas reçu un esprit de serviteur pour être de rechef dans la crainte, mais vous l'avez reçu, l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous croyons souvent, nous avons l'impression, une lecture trop rapide, que le Père nous adopte, ce qui est le cas, mais il nous faut aussi adopter en retour ce Père. Et vous savez que toute adoption réussie, d'ailleurs, suppose une bilatéralité, parce que malheureusement, on connaît des cas comme ça, j'ai été choqué de découvrir que des enfants qui ont été adoptés ne souhaitent pas forcément être adoptés en retour. Hein. Et notamment à l'adolescence, les enfants qui renvoient cette adoption en disant, vous n'êtes pas mon père, tu n'es pas mes parents, etc. Ils refusent. Et du coup, l'adoption suppose pas seulement la générosité parentale, mais suppose une réponse individuelle profonde de l'enfant adopté pour qu'il puisse accepter d'être adopté. Et puis, une autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'est je ne savais pas qu'on pouvait adopter un adulte en France. C'est tout à fait possible. Mais du coup, l'adulte là qui est adopté, c'est une fille qui vient du Mali, qui a été adoptée en France. Elle a 18 ans, elle va faire ses études à Toulouse. Et du coup, se pose la question forcément de l'héritage. Donc, l'adoption sans simple ou l'adoption complexe, plénière, voilà, plénière. Et donc, dans le cas de l'adoption plénière, eh bien, cette jeune malienne devient effectivement l'enfant de la famille, mais pas seulement, elle devient aussi héritière, quoi. Donc, c'est intéressant, ces 3 degrés-là. L'adoption, elle est bilatérale pour vraiment marcher, hein. Et puis aussi, c'est une adoption plénière, hein, et non pas simple, hein. Le christianisme est un monothéisme d'un genre particulier. Il ne s'agit pas de croire en Dieu seulement. Après tout, les démons croient aussi, hein. Souvent, on cite 3 monothéismes dans les religions, les grands monothéismes. On parle du judaïsme, l'islam et le christianisme. On oublie un monothéisme, c'est celui des démons, hein. Mais dans un Dieu de bonté que l'Écriture appelle Père. C'est-à-dire que la spécificité de la foi chrétienne, c'est que nous adorons nous ne croyons pas seulement à un monothéisme, mais c'est que celui qui est au cœur de ce monothéisme, c'est un Père. Oui, j'avais la gorge sèche. Et le Père, donc, n'est pas un paramètre du christianisme. C'est-à-dire que le Christ est venu sur la terre afin de nous faire connaître le Père. Et vous vous rappelez, toutes les fois, il dit, quiconque m'a vu a vu le Père. Son but n'est pas de se montrer lui-même, de montrer qui est le Père. Et ça, c'est très important parce qu'on peut être christocentré de la mauvaise manière. Hein. On peut être christocentré sur la personne, et c'est bien d'être christocentré sur la personne du Christ, mais il nous faut être aussi christocentré sur la mission du Christ, qui nous fait aussi, c'est lui qui nous fait connaître le Père. Autrement dit, nous venons au Fils pour mieux connaître le Père, en fait. Hein. Alors, naître de nouveau pour un païen, c'est forcément découvrir le Père céleste en dépit de parents non chrétiens. Et là, je voudrais que vous écoutiez tout ce qui a été dit ce matin et qui pourrait faire écho à ce qui a été dit. Hein. On n'a pas utilisé le mot résilience, mais ça peut exister, la résilience, heureusement. Hein. Et donc, c'est forcément découvrir le Père céleste en dépit de parents non chrétiens. Il y a une étude qui a été faite par un psychologue aux États-Unis, qui d'ailleurs devenu chrétien en faisant cette étude. Il s'est rendu compte que les grandes figures datées dans le monde, les plus grandes figures datées dans le monde, avaient un point commun, c'est-à-dire une relation père-terrestre désastreuse. Donc, il y a aussi des causes, je dirais, familiales aussi à l'athéisme. Naître de nouveau pour un enfant chrétien, c'est forcément de tenter de découvrir le Père céleste derrière une éclipse parentale. Alors là, je suis un petit peu provocateur, dans le sens où c'est vrai que les parents chrétiens peuvent éclipser quelquefois l'image du père, parce que justement, voulant être tellement exemplaire et tellement parfait, que l'enfant est obligé de dire « Papa, maman, vous êtes vraiment génial, mais est-ce que vous pourriez juste vous dépasser d'un pas pour que je puisse voir le père que vous essayez de me montrer avec tant d'ardeur et de… » Voilà. Donc je l'ai dit un petit peu à l'avance, là, à bas, hein, avec Amen, qui est le mot qui convient pour décrire ce Père céleste, qui devient aussi notre Père terrestre. Vous savez que le mot Père en Afrique, hein, le mot Père en Afrique d'ailleurs, Abba aussi, c'est une image très très… c'est pas de la familiarité, il n'y a pas du tout de familiarité, c'est au contraire un mot que l'on prononce avec beaucoup de tendresse, mais de respect en même temps pour honorer quelqu'un, hein. Quand vous êtes, moi j'ai eu la chance d'être appelé Papa Pierre là-bas. J'ai cru que c'était un mot de familiarité. J'ai découvert au contraire que c'était un mot de grand honneur. Les obstacles maintenant pour saisir ce Père, parce que vous avez compris que je vais essayer de placer l'identité au cœur du Père, hein. Notre histoire personnelle, hein. Ou Papa Outé. Dans vos notes, d'ailleurs, j'ai marqué racine, il y a marqué racine cassée. C'est très intéressant comme mon inconscient a écrit racine cassée, alors qu'en fait, ça vient d'un album qui s'appelle Racine carrée. Hein. Papa Outé, vous savez combien de millions de fois ce chant a été vu en francophonie? Allez, dites-moi un chiffre rapidement. 18 millions?
200.
Pardon? 200 millions? On est à un demi-milliard. Hein. Wow. En francophonie. Ce qui veut dire que dans la francophonie, il y a vraiment une thématique par rapport au père qui est en souffrance parce que le mot Papa Outé joue sur trois sens. Papa Outué. Et vous savez que Stromae est un enfant d'un père rwandais, burundais, je ne sais jamais si c'est l'un ou l'autre, hein, ouais. Et qui a perdu, son père est décédé, mais c'était un homme qui était plus occupé à courir les femmes qu'à éduquer son fils, donc. Et quand il écrit ce chant, il va pleurer, hein. Mais il va mettre énormément une thématique, à mon avis, qui parle vraiment toute la francophonie. C'est donc papa, où t'es, où tu es. Ça veut dire aussi en papa, où t'es. Alors là, qui a deux sens terribles, hein. L'un est un peu moins que l'autre, mais quand même, en papa, où t'es, ça veut dire tromper. Hein. Et ça veut aussi dire, malheureusement, une métaphore sexuelle aussi très forte, l'empapaoutage. Et voilà, juste pour dire l'importance de l'histoire personnelle dans la construction de notre identité, mais nous avons quelqu'un qui l'a dit mieux que moi encore ce matin. Notre cœur est une fabrique d'idoles aussi. Le cœur aussi est un obstacle dans l'identité, la formation d'identité. C'est Jean Calvin qui le dit. Et je vous invite à lire ce livre, La Cabane, parce qu'il y a. Je ne sais pas si tu l'as lu, La Cabane. Voilà.
Excellent
Il est
sorti en
bouquin.
DVD aussi.
Pardon?
Il est sorti en DVD.
Il est sorti en DVD également. Ouais. Le cœur est donc fabrique des idoles, c'est-à-dire que on est tenté de se faire sa propre représentation de qui est le Seigneur. Et il y a cette interdiction de Moïse de ne pas se faire ces représentations, de représentation. On pense que c'est une condamnation de l'art, pas du tout une condamnation de l'art. C'est ne pas se faire ces représentations, ne pas se faire une représentation privée. Et le cœur est une machine à représentation privée, et nous n'arrêtons pas avec notre cœur de fabriquer des idoles. Une idole, c'est quoi? C'est quelque chose qui est secondaire et légitime, et qui peut devenir ultime et premier. Hein? C'est quand quelque chose de légitime et secondaire devient ultime et premier. Et le cœur a tendance à prendre ce qui est secondaire et légitime et en faire des choses ultimes et premières. Et n'importe quoi dans l'être humain est capable comme ça, de recycler n'importe quoi en idole, absolument n'importe quoi. Hein. Et notamment, j'ai mis ce petit extrait, je trouve, c'est une pièce de littérature formidable. L'ennui que beaucoup de gens tentent de comprendre qui je suis en se basant sur la meilleure version de leur propre personne. Ils la projettent au énième degré, ils amalgament ensuite toute la bonté qu'ils sont capables de percevoir, ce qui est absolument fort peu de choses, et ils nomment Dieu ce qui en résulte. C'est un bel effort, mais en vérité, ce résultat ne m'arrive pas à la cheville. Je ne suis pas seulement la version la plus parfaite de toi que tu puisses imaginer, je suis beaucoup plus que ça. Je suis bien au-dessus et au-dessus de tout ce que tu pourrais imaginer ou vouloir. Voilà. Et ça renvoie aussi au psaume 50, 21 qui ne dit rien d'autre. Hein. Je me suis tu car tu as cru que j'étais comme toi. Hein. Le psaume 51, 50, verset 21. Donc voilà un autre obstacle. Donc un troisième obstacle, il vient de la linguistique. Et c'est intéressant de juste d'en prendre conscience, les amis francophones. Notre langue et notre culture d'origine, c'est la genèse du mot Dieu. Vous savez que le mot Dieu et toutes les cultures ont dû faire comme ça, c'est-à-dire aller emprunter dans notre vocabulaire, dans notre sémantique, un terme qui puisse parler, qui puisse nommer Yahweh, hein, Adonai. Hein. Et donc toutes les cultures ont ce problème-là. Et nous, nous sommes allés emprunter, donc traduire, parce que traduire un mot d'une langue à une autre, c'est forcément le traduire d'une culture à une autre culture. C'est d'ailleurs l'aspect le plus terrible dans la traduction, en fait. Donc, toute traduction est une forme de trahison. Et là, on a une trahison majeure. C'est parce que le mot Dieu vient du latin Deus, qui lui vient en directe ligne avec le mot Zeus. C'est-à-dire que chaque fois qu'un francophone dit Dieu, il se réfère à Deus et il se réfère à Zeus. Donc, la neurolinguistique pourrait nous dire à quel point ça ne peut pas être juste innocent que nous employons finalement un mot qui est directement lié au mot grec, donc à un dieu jupitérien qui tient dans sa main donc un éclair, prêt à foudroyer n'importe qui, et alors que celui qui lève la main vers le ciel, c'est celui qui a la main percée, hein, celui que nous adorons. Oui, il y a une grande différence, il y a un paradigme là qui est énorme. J'étais en mission en Roumanie. Et juste avant de parler, je dis juste, est-ce que comment on dit Dieu en roumain? Et la personne me dit Domnezeu. ça va encore plus flagrant en roumain, c'est Domnezeu, ça vient du latin dominé, Zeus, c'est-à-dire le maître Zeus, quoi. Imaginez dans les églises roumaines, chaque fois qu'il est parlé du Père de Jésus-Christ, c'est Domnezeu qui est utilisé, quoi. Ça laisse à réfléchir. Alors, je ne cherche pas à lancer une mode, hein, ce n'est pas du tout ça mon but, mais juste pour vous amener à réfléchir, c'est Tozer qui a dit la première chose que nous voyons en fermant nos yeux, en pensant à lui, est la chose la plus importante en ce qui nous concerne. Ce qui veut dire que, ce que nous voyons de lui, nous allons vouloir nous y conformer. Et forcément, ça a beaucoup à faire avec notre identité. Nos stratégies d'évitement de l'amour aussi nécessitent notre vulnérabilité. Alors, ça a été dit, je vais le redécliner d'une autre manière, ça a été dit brillamment ce matin. Ici, vous avez une citation, « To love is to be vulnerable », c'est parce que c'est Lewis qui le dit ça, hein. C'est que aimer, c'est être vulnérable. Or, quand on pose la question, est-ce que vous aimez l'amour? En général, tout le monde aime l'amour. Dieu est amour. Donc, est-ce que nous aimons Dieu amour? Nous allons tous dire oui. Sauf que la question se pose, c'est que je vous crois si vous me dites que vous aimez l'amour. Vous avez Dieu est amour, nous aimons l'amour. Sauf que l'amour nécessite tant notre vulnérabilité. Hein, je le dis sous le contrôle d'un psychologue. C'est génial de pouvoir parler quand il y a un psychologue dans la place. De parler d'amour en ayant en vive l'amour nécessite notre vulnérabilité. C'est lui qui va lui dire dans un texte que j'ai oublié de citer là, c'est que il dit, vous voulez vous protéger de l'amour, alors ne donnez de l'amour à vous voulez alors, vous voulez ne pas souffrir, surtout ne donnez d'amour à rien, même pas à un chien. Parce que si vous aimez un chien, quand il faudra l'amener à faire piquer, ça m'est arrivé, je parle d'expérience, vous avez un petit chien comme ça, vous portez le petit chien comme ça, vous avez le cœur qui fait tic 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 tic, il s'arrête. Je veux dire, moi, je pleurais comme une madeleine, ma femme pleurait comme une madeleine, la secrétaire pleurait comme une madeleine, et le vétérinaire toussait. Hein. Je veux dire, pour vous dire que c'est quand même assez fort, cette idée que si on ne veut pas souffrir, il ne faut pas aimer, quoi. Hein. Et il le dit clairement, il dit, surtout, si vous ne voulez pas souffrir, n'aimez pas. Enfermez votre cœur, mais dans le secret, dans le noir, il y a des moisissures qui vont se créer, enfin, toutes sortes de choses dont parle C.S. Lewis, c'est très intéressant. Vous avez eu le temps de voir un petit peu l'histoire d'un amour blessé qui se protège dans un coffre. Quelqu'un vient avec un amour réparé demander est-ce qu'on sorte l'amour blessé, mais il y a une suite, heureusement. Hein. Et finalement, la personne refuse dans un premier temps, protège bien sûr tous ses systèmes de défense, etc. Finalement, on va lancer la clé. C'est très très puissant comme image, ça. Et finalement, on va accepter que l'amour soit à nouveau regonflé. Voilà, c'est de la. Donc on a entendu voilà la version universitaire ce matin, la psychologie là, excusez-moi, on est plutôt dans une chose beaucoup plus élémentaire, mais voilà, je crois que ça parle beaucoup en tout cas ces images là sur le fait que nous mettons des stratégies d'évitement à l'amour. Une chose aussi intéressante, c'est alors parcourir Luc 15. Luc 15, c'est quelque chose sur lequel on passe beaucoup de temps donc à l'ISP pour parler de notre identité. Et juste pour réaliser que cette phrase de Jean, Jean qui est un juif, un fils d'Israël, qui va nous dire « Personne n'a vu le Père comme Jésus », qui nous le fait connaître depuis le sein même du Père, c'est Jean qui le dit, vous savez, dans l'Évangile. On pourrait dire à Jean « Mais Jean, écoute, excuse-moi, mais il y a des patriarches et des prophètes qui l'ont vu avant toi, pourquoi, avant Jésus, pourquoi tu dis que personne n'a vu Dieu finalement ?» Parce que tout simplement, parce que les prophètes, les patriarches ont vu, sont des êtres humains qui ont vu le Père de l'extérieur, qui ont vu le Seigneur de l'extérieur depuis leur humanité. Mais le seul qui nous parle avec énormément d'autorité du Père, ben c'est celui qui vient du sein du Père et qui nous parle. C'est-à-dire que le point de vue sur le Père que Jésus nous offre n'est pas un point de vue humain de l'extérieur vers le Père, c'est un point de vue divin du Père, du Père lui-même qui sort du cœur du Père pour nous dire qui il est. Donc c'est un point de vue absolument unique. Il n'existe pas de point de vue d'autorité et de profondeur aussi grande que ce point de vue-là. Dans le verset 3 de Luc 15, vous rendrez compte qu'il y a, vous savez, dans Luc 15, Jésus va rencontrer des scribes et des pharisiens, des publicains, des gens de mauvaise vie, et puis Il dit, mais ces gens, les scribes, les pharisiens vont murmurer, mais ils mangent avec avec les prostituées, etc., avec les gens de mauvaise vie. Il y a ce murmure-là. Et à cause de ce murmure des scribes et des pharisiens, au verset 3, il est dit, et Jésus leur dit cette parabole. Et ce qui est intéressant, c'est que, oh pardon, ce qui est intéressant, c'est que le mot parabole ici est au singulier. C'est-à-dire qu'il y a une seule, en fait, parabole dans Luc 15. Qui se décline après en trois images, c'est-à-dire une seule parabole, trois récits, hein, et chaque récit finalement est là pour nous montrer qui est le Seigneur. C'est très intéressant de voir comment ça se passe, c'est parce que c'est la définition même de la Trinité, un seul Yahweh, hein, un seul Seigneur, trois personnes dans la Trinité, chaque personne est pleinement Dieu. Et bien là, pareil, dans Luc 15, on a une seule parabole et non pas trois, une grande parabole en triptyque, faite si vous le souhaitez, de trois plus petites paraboles, mais il n'y en a qu'une seule de parabole. Elle est unique, elle ne peut pas, chaque image ne peut pas se séparer de l'une ou de l'autre. Hein. Donc on a une révélation de qui est la Trinité, et on a aussi, et particulièrement dans Luc 15, cette connaissance de soi et connaissance de Dieu, du Père sont des connaissances mutuelles. Elles se renvoient mutuellement, ça c'est Calvin qui l'a dit, mais en citant déjà les pères de l'Église avant lui, hein. Connaissance de soi et connaissance du Père sont des connaissances mutuelles, elles vont ensemble. Hein. Il n'y a pas de connaissance extatique de Dieu, dans le sens où moi je connais Dieu en recevant une révélation, mais moi je ne serai absolument pas atteint. Non, le chemin qui me mène vers lui, c'est un chemin aussi que je dois faire aussi vers moi-même. Hein. Il y a dans cette parabole, troisième parabole de Luc 15, la fameuse parabole du Fils prodigue, la révélation que Yahweh est un père, de qui nous sommes au travers de deux personnages, l'aîné et le cadet, et puis bien sûr toute la dimension de l'héritage du père, et toute une dimension souterraine comme ça dans cette parabole qui est souvent ignorée et qui parle de la dimension du royaume. Hein. Vraiment trois dimensions très intéressantes qui sont liées les unes aux autres. Et voilà, une bonne nouvelle, c'est que dans cette troisième parabole, il y a une version pour les adultes. Hein. Le cadet, l'aîné, dans cette parabole donc du fils prodigue, soi-disant, hein, je dis soi-disant parce que je ne pense pas que ce soit le bon titre à la parabole, il y a deux visages de la chair humaine des Juifs, finalement. Indépendante, concernant le cadet, rebelle, hein, et puis religieuse, concernant l'aîné, qui, lui, a décidé de monter justement au sommet de lui-même, et il ne travaille pas avec le Père, mais travaille pour le Père. C'est très intéressant, cette dynamique de l'aîné, qui ne travaille pas avec le Père, mais qui travaille pour le Père. Et finalement, ces deux personnages de la parabole de Luc 15 sont là, là on est exactement dans Luc 15, versets 1 et 2, hein. La parabole, la troisième partie de la parabole, donc le cadet et l'aîné, on les voit ici. Vous avez ici Jésus au centre, vous avez les disciples assis, hein, les 12 disciples, qui sont, à qui Luc 15 ne s'adresse pas directement. C'est d'autant plus intéressant que finalement nous sommes d'autant plus attentifs que Luc 15 ne nous est pas adressé directement. Mais de toute évidence, cette parabole avait pour but, ces trois paraboles avaient pour but de parler aux publicains, aux gens de mauvaise vie ici, et aux scribes et aux pharisiens de l'autre côté. Et dans chaque parabole, la brebis perdue, elle représente ces gens-là, et les 99 qui n'ont pas besoin de repentance, bien sûr, représentent les publicains, les gens de mauvaise vie. Dans la deuxième parabole, la drachme perdue représente cela, et les 9 autres drachmes, qui, elles, ne font pas l'objet d'une joie particulière, parce qu'elles ne sont pas perdues, elles ne se savent pas perdues, représentent les scribes et les pharisiens. Et enfin, dans la troisième partie de la grande parabole de Luc 15, vous avez ici le cadet qui représente les publicains et les gens de mauvaise vie, bien sûr, qui va demander son héritage, partir, en commettant un meurtre symbolique, en refusant le père finalement. Et puis vous avez l'aîné, les scribes et les pharisiens, qui restent dans la maison, mais qui ne connaissent pas le père de la maison. Le syndrome de l'aîné dans la parabole, c'est celui qui travaille pour être aimé, non pas parce qu'il est aimé. Finalement, c'est une dynamique très intéressante parce que tout ce que nous faisons pour être aimé nous emmène d'emblée vers les œuvres de la loi. Hein? Mais tout ce que nous faisons parce que nous sommes aimés, eh bien, nous emmène vers les œuvres de la foi. Hein? C'est une manière aussi de décliner. Et puis, donc, le fameux tableau que nous venons de voir s'appelle de James Tissot, qui était un Français à l'origine. Hein. Il s'appelait Jacques Tissot. Il peignait des femmes de mode à Paris. Il perd sa femme et se convertit, va rencontrer le Seigneur à l'occasion de ce décès en Angleterre. Il va s'appeler James Tissot. Et le tableau que nous venons de voir se trouve au MoMA, Museum of Modern Art, aux États-Unis, à New York. Ces deux cadets, en fait, ces deux fils, pardon, ces deux fils dans cette parabole nous montrent deux stratégies d'évitement de l'amour. Je vous l'ai dit que d'emblée, nous aimons l'amour, mais en réalité, nous mettons des stratégies d'évitement de l'amour parce que, certes, nous sommes attirés par l'amour, mais certes, nous ne voulons pas souffrir. Donc, nous avons peur de la vulnérabilité parce que la dernière fois que nous avons souffert, nous étions justement vulnérables. Oui, la dynamique qui est en jeu en nous par rapport à la quête de notre identité et la rencontre avec le Père, c'est que si nous mettons des stratégies d'évitement de l'amour dans nos vies, ce que j'appelle stratégie d'évitement, hein, c'est pas, je le tire d'aucun livre de psychologie, c'est juste quelque chose que je vous propose. Quand nous mettons ces stratégies d'évitement personnellement dans nos vies pour nous protéger finalement des vulnérabilités possibles, et je ne dis pas qu'on a tort de faire ça, attention, hein. Je dis simplement qu'il faut en être conscient, et bien ces mêmes stratégies d'évitement que nous mettons finalement dans notre existence, dans notre relation interpersonnelle, forcément peut avoir un effet induit dans notre relation avec le Seigneur. Vous protéger de vos relations horizontales, forcément ça vous amènera à vous protéger d'une relation verticale. Ce sont deux axes absolument indissociables, hein. Cette double axiologie est absolument inséparable. Donc les deux stratégies d'évitement, on les voit très claires. C'est l'indignation du cadet qui cherche son indépendance et le fait de se racheter lui-même par une culture de mercenaires, puisque quand il rentre à la maison, alors que le père va l'a vu de loin, court à sa rencontre, se jette littéralement en grec, c'est écrit sur son cou, le couvre de baisers, au moment où le père le couvre de baisers, le cadet s'apprête à dire « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils », et il s'apprête à dire « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers, un de tes mercenaires, pardon. » Mon mercenaire est utilisé. Et là, le Père ne lui permet pas de dire ça au moment du retour. Au contraire, il lui interdit de dire ça puisque le Père lui apportait plutôt la plus belle robe. Donc, vous voyez, on voit qu'au centre même du retour, ça nous parle aussi de nos retours, c'est qu'on peut très bien réintroduire l'indignité en nous, nourrir l'indignité comme un signe d'humilité. Or, c'est clair que dans le cas du cadet, l'indignité n'est pas du tout un signe d'humilité. C'est plutôt l'expression encore d'une chair indépendante. Et sans doute aussi, je pense, une forme d'orgueil. Concernant l'aîné, lui, il va chercher l'approbation en cherchant à produire la meilleure version de lui-même. C'est ce que j'appelle le perfectionnisme. Et là, ça mériterait pour les enseignants chrétiens qu'on ait un jour à faire venir un psychologue parler du perfectionnisme. Parce que je ne connais pas d'enseignant qui ne soit pas quelque part piégé par le perfectionnisme. Vous aimez la perfection, continuez de l'aimer, mais il y a une manière d'y arriver, et il y a une bonne et une mauvaise manière. Voilà, je crois que ce serait vraiment un thème que j'aimerais vous suggérer de méditer. Hein. Maintenant, c'est là où je voulais en arriver, et je suis assez content du temps, là, j'ai peut-être été un petit peu vite. Est-ce qu'on peut faire juste une pause, une question, là, à cet entendant-là, avant que je passe à une deuxième partie dans mon intervention? Un besoin de clarification? Je galope pas trop, oui?
J'ai pas compris ce que vous avez dit.
Ah oui, alors ça, si t'as pas compris, ça m'ennuie là.
Avec l'histoire d'humilité du fils prodigue qui revient pas par attitude d'humilité.
Alors, oui, alors c'est vrai que on a souvent entendu dire dans l'interprétation de Luc 15, regardez comme il est humble, regardez comment. Mais peut-être que ça va s'éclairer par la suite. Donc, mais je voudrais commencer par dire, c'est que si ça avait été de l'humilité de dire, je ne suis, traite-moi comme l'un des mercenaires, ça c'est l'intention qu'il a au verset 19. Mais si tu regardes deux versets plus loin, donc il a l'intention de dire, je me lèverai, il est dans l'intentionnalité, je me lèverai, je dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Hein, on voit les deux axes, j'ai péché contre le ciel. Une manière juive de ne pas dire Yahweh, hein. J'ai péché contre le ciel et contre toi, Père. Donc on voit la croix dans sa repentance. Mais après, il continue en disant, je suis pas digne d'être appelé ton fils. Qui est si est digne? Personne d'entre nous n'est digne. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Voilà ce qu'il a l'intention de dire. Nous sommes au verset 19. Tu vas voir au verset 21, tu vas trouver donc la première partie. C'est-à-dire, je suis pas digne d'être appelé ton fils, qui n'est pas un scoop, je dirais. Hein. Mais par contre, la phrase, traite-moi comme l'un de tes mercenaires, n'apparaît plus, parce que le père dit à ce moment-là très vite, il dit, vite, apportez la plus belle robe. Et la plus belle robe, c'est le symbole de la justice, c'est-à-dire de la manière dont le père nous considère, et non pas la manière dont nous nous considérons. Si ça avait été une parole d'humilité, la preuve que je voudrais proposer, si ça avait été une parole d'humilité, le père l'aurait reçue. Ça avait été une parole même de l'Esprit-Saint. Je n'imagine pas le Père couper la parole à l'Esprit-Saint. Ça avait été vraiment une parole de l'Esprit-Saint, je pense qu'il l'aurait reçue, cette parole. Mais parce que c'est pas une parole de l'Esprit, et parce que justement c'est une manière de vouloir se justifier par soi-même dans une identité d'indignité, le Père lui propose une autre manière, c'est-à-dire recevoir une identité de fils et de fille par la justice. Voilà. C'est pour ça que je ne crois pas qu'il s'agit d'humilité. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu vite et je m'en excuse. Je ne pouvais pas faire autrement. Je voudrais maintenant aborder quelque chose de pratique, un peu plus pastoral, si vous préférez. Là, on a un peu galopé, je m'en excuse. C'est une scène qui s'est produite dans Marc 9, versets 36 et 37. Et là, c'est intéressant d'entendre ce qu'un psychologue aurait à nous dire là-dessus. Et en tout cas, je le dis sous son contrôle aussi. L'importance du contexte et du passé des disciples pour comprendre Marc 9, 36 et 37. Je vous rappelle que Marc 9, 36 et 37, juste pour situer un peu le passage, vous savez, c'est le moment où ils sont en route vers Capernaum, Jésus et ses douze. Ils sont en route vers Capernaum, mais avant, il s'est passé des choses extraordinaires. C'est-à-dire que Jésus avait soufflé sur eux, recevait l'Esprit, et il avait donné l'autorité de chasser les démons, de guérir, etc. Et ils vont faire des choses absolument fabuleuses, miraculeuses. Leur mission va être couronnée d'un succès vraiment incroyable. Ils sont dans le surnaturel, vraiment du Seigneur. Ils font les mêmes choses que font Jésus. Chose intéressante, alors que quelque part, on peut considérer que dans Marc 9, ils ne sont pas encore vraiment convertis. Très intéressant de noter au passage. C'est pas un truc qu'on appelle la grâce, ça aussi, mais enfin bon. Et donc, ils sont en route, et parce que ils ont vécu toutes ces choses, ils discutent de savoir lequel d'entre eux sera appelé le premier dans le royaume de Dieu. Vous voyez un petit peu le passage. Donc ils discutent. Alors oui, mais moi il me semble qu'avec ce qui vient de se passer, c'est moi qui serai appelé le premier dans le royaume de Dieu, etc. Ils sont en train de se la péter, comme on dit, hein. Et grave aussi, on peut rajouter cet adjectif. Et puis Jésus ne dit rien et les amène jusqu'à Capernaum. Et arrivé à Capernaum, Jésus donc leur pose la question. Au fait. J'aime beaucoup l'humour là. C'est au fait, vous parliez de quoi en chemin, comme si Jésus n'avait pas entendu quoi. Et tout d'un coup, chose intéressante, alors que quelques minutes avant, vous voyez ma main, ils étaient là, c'était grave ici. Au bout de quelques instants, ils sont là dans le mépris d'eux-mêmes et ils ne veulent plus rien dire. Ils sont dans le silence, ils ont honte. Et juste pour montrer une chose intéressante, Romains 2,15 en fait montre ce processus qu'il y a dans l'âme humaine qui n'est pas sauvée encore. C'est-à-dire l'idée que finalement regardez, nous accusons et nous défendons tout à tour dans la conscience. La conscience de irrégénérée finalement s'accuse et se défend tour à tour. C'est-à-dire que nous pouvons être très bien dans l'exaltation de nous-mêmes ici. Ou alors dans le mépris de soi-même et on passe de l'un à l'autre. Et il me semble qu'il existe un autre chemin que Jésus va nous montrer justement, parce que alors que Jésus constate leur orgueil, bien sûr, il va prendre un enfant. Et bien sûr, quand on parle de l'enfant, on en fait un symbole d'humilité. Quoique, je ne suis pas sûr, je ne sais pas ce que tu en penses, est-ce qu'un enfant peut être orgueilleux?
Oh oui.
Oui, je me demande si vraiment c'était ça le message. Et justement, j'aimerais qu'on creuse un peu. J'aimerais qu'on creuse un peu. Quand Jésus, d'ailleurs, va prendre l'enfant, le mot grec qui est utilisé, c'est il prit un enfant, c'est lambano. Alors imaginez l'enfant, il est en train de sucer son pouce, et il est pris, on ne lui a pas demandé la permission. C'est-à-dire que vraiment, le Père, Jésus, se saisit de l'enfant, sans lui demander la permission, et il va servir d'exemplarité. Et je suppose que quand l'enfant va se tourner vers voir qui est-ce qu'il a pris, je crois qu'il va être rassuré de voir que c'est Jésus qui l'a saisi comme ça. Hein. Après, Jésus, dans le verset 37, va utiliser 4 fois le même mot, le même verbe. C'est inédit. Je n'ai pas encore eu le temps de vraiment regarder, mais c'est quand même assez rarissime que Jésus utilise le mot 4 fois le même verbe dans un même verset, dans un même souffle. Oui. Donc, ça laisse supposer peut-être que ça soit assez important. 4 fois le mot décomaille, qui veut dire? Regardez bien, et ça, si ce n'est pas programmatique pour nous enseignants, prendre par la main, recevoir dans une famille, élever ou éduquer, instruire, recevoir favorablement, prêter l'oreille à, embrasser, s'approprier, approuver, ne pas rejeter. C'est vraiment un mot d'écomaille pour nous enseignants chrétiens. Prendre par la main, recevoir. D'ailleurs, si vous écoutez Luc Bussière parler de ça, il dit que élever un enfant, c'est l'élever vers le Seigneur. C'est l'image d'élever de la présentation au temple. C'est une image hébraïque, en tout cas, qui est derrière le fait d'élever et derrière ce mot d'écomaï ici. Donc, c'est intéressant que Jésus va reprendre quatre fois ce verbe. Alors, est-ce qu'on peut le lire, ce Marc 9, 37? Eh bien, je le cite de mémoire, mais si vous l'avez sous les yeux, c'est encore mieux. Et donc, Jésus prit l'enfant et le plaça au milieu de ses disciples. Donc, prit l'ambano, il se saisit de l'enfant et il le place au milieu. Donc, imaginez que vous formiez le groupe des disciples et Jésus place l'enfant au milieu. C'est intéressant, je ne pense pas que ce soit un hasard. Ensuite, il dit, et il prit l'enfant dans ses bras. Une image extraordinaire de proximité, d'accueil, de recevoir dans une famille, d'élever, d'éduquer, d'instruire, de recevoir favorablement, de prêter l'oreille, d'embrasser, de s'approprier, d'approuver les paroles. Il va faire ça. Il va prendre l'enfant dans ses bras. Et il va mimer. Je dirais, il y a quelque chose de très prophétique là-dedans. Donc, voyez la séquence en vidéo. Il met l'enfant au milieu de ses disciples. Ensuite, il met ses bras autour de l'enfant et voilà. Ensuite, il part pour expliquer le geste. Et voilà ce qu'il dit. Quiconque accueille, quiconque décomaille, hein, donc quiconque accueille, reçoit un enfant en mon nom. Ce n'est pas moi qui le reçois, ce n'est pas l'enfant qui le reçoit seulement, ce n'est pas moi qui le reçois, c'est moi qui le reçois, pardon, et celui qui m'accueille ne m'accueille pas seulement moi, mais c'est accueille celui qui m'a envoyé, il accueille le Père. Donc, vous voyez, c'est-à-dire accueillir l'enfant, c'est accueillir le Christ. Accueillir le Christ, c'est accueillir le Père. Donc ça, c'est toute la thématique qui est là donnée. Alors, revenons. Pourquoi Jésus parle de ça? Alors bien sûr, Jésus voulait enseigner l'humilité. Ok, mais comment il s'y prend? Comment en tant que psychologue, finalement, comment en tant que sauveur, il s'y prend pour montrer un chemin aux disciples? D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, ils n'auront pas saisi. La question qui viendra après montrera qu'ils n'ont pas saisi le message. Mais le fait que ça figure dans l'évangile de Marc après prouve que il y a une compréhension entre-temps, et la conversion a amené la compréhension, certainement, de ce passage-là. Mais au moment où ça a été dit, je pense qu'ils n'ont pas saisi, vu les questions qui surgissent juste après. Je crois que ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que la manière dont on peut se poser les questions, c'est qui est l'enfant? Alors, on a dit, symbole d'humilité, un petit enfant les conduira, l'enfant du comte d'Andersen. Vous connaissez le comte d'Andersen, le roi est nu? Vous vous souvenez pas de ce conte? Alors, c'est vraiment génial. C'est un roi qui est très infatué, comme ça, qui aime bien les beaux vêtements. Et puis, il y a des gens qui parcourent le monde pour essayer de trouver toujours à faire un bon deal. Et puis, finalement, ils voient ce roi, ils étudient le roi, la psychologie de ce roi qui aime bien les beaux vêtements. Et ils vont prétendre faire un vêtement invisible pour le roi. Tu vois? Et donc, ils vont faire un vêtement invisible et personne n'ose dire la vérité au roi. Au roi autour de lui. C'est le problème de la cour. D'être entouré de cours. C'est très, très, très dangereux d'avoir une cour, de nourrir une cour autour de soi, parce que le problème, c'est que les gens n'osent pas, vont toujours dans le sens du roi, n'osent pas lui dire. Ça. Et finalement, le roi va faire l'essayage d'abord devant ses ministres. Il fait un essayage, imaginez, il est tout nu, comme ça. Hein, et les ministres qui rigolent sous cap, disent « Oh, majesté, que vous êtes beau, etc. » Donc le roi est tellement convaincu de la beauté de son vêtement, il va aller dans les rues et faire une procession, et tout le monde va se baisser, rire sous cap, et à un moment donné, un enfant dans la foule va dire, mais le roi est nu. Ça, je voudrais juste laisser comme message aussi spirituel pour nous. Nous avons besoin aussi dans nos vies qu'un enfant nous dise nos nudités. On a besoin aussi de gens qui vont aussi nous parler de vulnérabilité, Ne vous entourez pas de gens qui vont que dans votre sens. Hein. Acceptez d'aller voir le psychologue qui joue aussi le rôle de l'enfant qui dit « mais tu es nu ». Voilà. Je pense aussi le ministère du Saint-Esprit aussi. Hein. Écoutez-le. L'enfant passé, présent en nous. Et voilà, c'est là où je voudrais terminer. C'est qu'il me semble que l'enfant que Jésus place au milieu d'eux n'est pas juste un symbole de l'humilité, pas seulement l'enfant du conte d'Andersen, si on voulait plaquer quelque chose, mais si on revient au texte et on revient au geste, l'enfant qui est placé au centre des disciples, je crois que c'est l'enfant que nous avons été. Je pense que c'est l'enfant qu'ils ont été, ces disciples, pour une raison très simple. Si vous voyez, encore une fois, ça, on revient au début de notre débat, aux scribes et aux pharisiens qui étaient des gens très très durs, et je vous rappelle, c'était les enseignants de l'époque, hein. La scène qu'on a vue du tableau de Tissot, vous la voyez partout en Israël à l'époque. Vous aviez toujours des scribes qui enseignaient comme ça. Et quand vous voyez comment on règle, par exemple, dans Deutéronome 21, les crises d'adolescence, par la lapidation notamment, vous vous dites que, franchement, ça ne doit pas être forcément cool tous les jours d'avoir des scribes et des pharisiens comme profs, quoi. Ça devait être très très compétitif, très très 613 commandements avec à l'époque de Jésus des amendements. On arrive à un peu plus de 1500 commandements et amendements. Je veux dire, le sentiment d'échec devait arriver très vite dans le champ d'éducation, parce que c'est une éducation à la performance, une éducation légaliste, et elle fait des dégâts pas possibles. Ce que j'aime à dire à l'ISP, c'est que et j'aimerais vous le dire à chacun, enseignant, c'est qu'on Père n'attend rien de vous, mais il espère tout. Dites-le, pratiquez la pédagogie de l'espérance plutôt que la pédagogie de l'attente. Ou du moins, si vous avez des attentes, veillez à ce que l'espérance soit au moins aussi grande que l'espérance, que l'attente. Hein, parce que si vous mettez plus d'attente que l'espérance, vous pouvez écraser un enfant. Mais ce que j'aimerais vous dire à chacun, c'est que le Père n'attend rien. Détendez-vous, s'il vous plaît, ce matin. Le Père n'attend rien de vous. Mais par contre, il espère tout. Parce qu'une attente sans espérance, ça peut aussi ressembler à la froideur. Hein. Il n'y a pas de froideur dans le Père. Alors, mon idée, c'est que ces disciples étaient tellement forgés dans le mépris d'eux-mêmes, dans la dépréciation d'eux-mêmes. Regardez quand Jésus les rencontre. « Ah non, non, t'approches pas de nous !» Ils sont conscients de leur limitation. C'est ce que je vois d'ailleurs en Roumanie quand je vais là-bas. Les gens sont tellement conscients de leur état de pécheur. C'est même là-dessus que basé le christianisme en Roumanie. C'est pas ils sont pas focalisés sur leur identité de fils, ils sont focalisés sur leur identité de pécheur. Ils étaient tellement sûrs de leur peu de valeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu envoies des gens comme ça faire une mission avec autant de succès, ils reviennent, ils se la pètent. Donc en fait, vous voyez, cette idée de se la péter, qui sera le premier dans le royaume de Dieu, et puis Jésus dit, au fait, vous parlez de quoi? Tout d'un coup, ouf, il passe à l'autre, le mépris d'eux-mêmes, la honte, etc. Et ce que je crois que Jésus veut ouvrir, il veut dire, c'est pas là que je vous veux, c'est pas là que je vous veux, c'est un chemin médian de réconciliation, mais de réconciliation avec l'enfant. Pourquoi c'est important que nous soyons réconciliés avec notre enfance? Parce que déjà, en tant qu'enseignant, nous rencontrons les enfants toute l'année, toute notre existence, et il y a des enfants qui nous défient, et ça a été très clairement dit ce matin, c'est clairement, certains enfants nous défient parce que nous pouvons relire aussi des choses de notre propre enfance en eux, nous pouvons ne pas aimer certaines choses qu'ils sont parce qu'ils nous rappellent, nous renvoient aussi à des choses de notre enfance que nous ne voulons pas voir, et voilà ce que nous pouvons faire, je vais me permettre de jouer un petit peu, c'est un enfant en nous, on peut lui dire, écoute, ce que tu as vécu à l'âge de 5 ans ou à 12 ans, je sais que ça te fait mal, je suis désolé ça te fait mal, mais s'il te plaît, moi je dois être enseignant, je dois m'occuper de tous ces élèves-là, alors s'il te plaît, tu vas faire silence en moi, hein. Je ne veux plus entendre parler de ça, et puis je m'occupe des choses sérieuses avec les... Mais vous voyez, je mets cette distance-là. Et là, pourquoi cette distance m'interpelle? Et je voudrais terminer avec une parole de Saint-Augustin qui n'est pas dans ma présentation. Saint-Augustin a dit, le Père est plus proche de nous que nous sommes de nous-mêmes. Hein? Le Père est plus proche de moi que je suis de moi-même. Ou si vous préférez une version plus savante, le Père est l'intime, est plus intime que l'intime de moi-même. Regardez ce qui se passe si je mets une distance avec l'enfant. Vous voyez ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. Si le Père est plus proche de moi que je suis de moi-même, une manière de me mettre, d'être à distance de moi-même, c'est effectivement, comme les disciples, de me la péter, ou alors d'être dans le mépris de moi-même. Parce que si je me la pète, ou si je suis dans le mépris de moi-même, je suis à distance de moi. Je crée une distance. Hein. Mais si, en plus, j'ai réglé l'enfant en moi, l'enfant que j'ai été, en le mettant à distance, eh bien, je crée une distance. Et souvent, et c'est ce que je voudrais dire, c'est une simplicité enfantine, c'est qu'il me semble que les distances que nous recevons avec le Père ne sont pas tant les distances que le Père met avec nous, puisqu'il n'en met aucune, ça soit clair. Ce sont les distances que nous mettons entre nous et l'enfant. Pourquoi ? Regardez, je vais continuer la citation de saint Augustin. « Le Père est plus proche de moi que je suis de moi-même. Et si je me rapproche de l'enfant, regardez ce qui se passe. Je me rapproche aussi de l'enfant, du Père qui est en moi. La distance que je mets avec l'enfant pour pas qu'il interfère avec ma vie, eh bien c'est la même distance que je ressens entre le Père et moi, puisque le Père habite dans mon cœur, habite dans ma vie. Éphésiens 4, 6, le Père est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Si le Père est en tous et que nous mettons distance avec nous-mêmes, avec l'enfant que nous avons été, nous comprenons que la réconciliation avec l'enfant ne va pas simplement produire une réconciliation avec l'enfant, mais n'a pas pour but, théologiquement, je dirais, la réconciliation avec l'enfant seulement, mais aussi la réconciliation avec le Père et le Fils qui est en vous. D'où cette expression de Jésus, 37, c'est validé par ce que Christ lui-même dit. Quiconque accueille cet enfant m'accueille, et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, c'est le Père qui l'accueille. Autrement dit, accueillir l'enfant au milieu de nous, c'est une manière d'accueillir le Fils, c'est une manière d'accueillir le Père.